Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Ah. Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Trémolo, bonjour.
Salut Gonzalo.
Comment te portes-tu?
Très bien, heureux de te retrouver.
C'est un plaisir pour moi. De qui, de quoi vas-tu nous parler?
Je vais te parler d'un livre de Miranda Julie qui s'appelle Un bref instant de romantisme. Et c'est un livre qui rassemble des nouvelles. Alors peut-être préciser que Miranda Julie est une écrivaine donc, mais aussi cinéaste. Elle a fait des films très intéressants, Moi, toi et tous les autres. Et puis elle a aussi une carrière d'artiste performeuse où elle fait des choses très originales, très un peu barrées. Et là j'ai choisi ce bouquin qu'elle a écrit, donc un recueil de nouvelles traduit de l'américain, donc, et publié en 2007. Et je vais te lire quelques nouvelles de ce recueil.
Avec grand plaisir.
Alors le premier s'appelle... La première nouvelle s'appelle « L'homme dans l'escalier ». C'était un petit bruit, mais il m'a réveillé parce que c'était un bruit humain. J'ai retenu ma respiration et ça a recommencé. Et puis encore, des pas dans l'escalier. J'ai essayé de chuchoter. Quelqu'un est en train de monter l'escalier, mais ma respiration était toute tremblante. Je n'arrivais pas à lui donner forme. J'ai serré le poignet de Kevin par série. 3 pressions, puis 2, puis 3. J'ai essayé d'inventer un langage qui puisse pénétrer dans son sommeil. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je ne lui tenais même pas le poignet. Je pressais dans le vide. Pour vous dire à quel point j'avais peur, je serrais la main dans le vide. Pourtant, le son était toujours là. L'homme gravissait les marches. Il montait le plus lentement possible. Il semblait avoir absolument tout son temps. Mon Dieu, tout le temps qu'il avait. Je ne m'étais jamais autant concentré sur quelque chose. C'est mon problème dans la vie. Je me précipite, comme si j'étais poursuivi. Même les choses dont tout l'intérêt réside dans la lenteur, comme boire une tisane pour se détendre. Quand je bois une tisane pour me détendre, je m'enfile toute la tasse en vitesse. À croire que c'est à celui qui boira le plus vite sa tisane pour se détendre. Ou dans un jacuzzi avec d'autres personnes, quand on regarde dans toutes les étoiles, je suis la première à dire « qu'est-ce que c'est beau ici ?» Plutôt on dit « qu'est-ce que c'est beau ici ?» plus vite on pourra dire « waouh, je commence à avoir trop chaud. » L'homme dans l'escalier prenait tellement son temps qu'à certains instants j'en ai oublié le danger. J'ai failli me rendormir pour être à nouveau réveillé par le déplacement de son corps dans l'escalier. J'allais mourir et ça m'était un temps fou. J'ai arrêté d'essayer de prévenir Kevin parce que je craignais qu'il fasse un bruit en se réveillant. Il risquait par exemple de dire « quoi ?» ou « quoi trésor ?» L'homme dans l'escalier allait entendre et saurait à quel point nous étions vulnérables. Il saurait que mon petit ami m'appelait Trésor. Il était même possible qu'il se perçoive sa légère contrariété, son épuisement, après la dispute de la veille. Nous fantasmons tous les deux sur d'autres personnes quand nous faisons l'amour, mais lui, il aime me dire qui sont les autres personnes et pas moi. Pourquoi, lui dirais-je, ce sont mes affaires, ça ne regarde que moi. Ce n'est pas de ma faute s'il prend son pied en me le disant. Il aime m'en faire part à la seconde où il jouit, comme un chat qui vous offre un oiseau mort. Je ne lui ai jamais rien demandé. Je ne voulais pas que l'homme dans l'escalier sache ces choses à notre sujet. Mais il allait savoir, à la seconde où il allumerait la lumière et sortirait son flingue, ou son poignard, ou son caillou hyper lourd, à la seconde où il brandirait le flingue contre ma tempe, ou le couteau à la hauteur de mon cœur, ou le caillou hyper lourd au-dessus de ma poitrine, il saurait. Il le verrait dans les yeux de mon petit ami. « Elle, tu peux la voir, mais laisse-moi la vie sauve. » Et dans mes yeux, il verrait les mots « Je n'ai jamais vraiment connu l'amour véritable. » Compatirait-il avec nous? Est-ce qu'il sait ce que c'est? La plupart des gens savent. On a toujours l'impression d'être le seul au monde, comme si tous les autres étaient fous amoureux de leur partenaire, mais ce n'est pas vrai. Généralement, les gens ne s'apprécient pas énormément. C'est vrai aussi pour les amis. Parfois, allongé dans mon lit, j'essaye de savoir parmi mes amis quels sont ceux qui comptent vraiment. Et j'en arrive toujours à la même conclusion, aucun. Je pensais que c'était juste mes amis au début, mes amis du début et que les vrais amis allaient venir par la suite. Mais non, ce sont mes vrais amis. Ce sont des gens qui ont un travail dans un domaine qui les intéresse. Ma plus vieille amie, Marilyn, adore chanter. Elle est responsable des admissions dans une prestigieuse école de musique. C'est un bon boulot, mais pas aussi bien que celui qui consiste à ouvrir la bouche pour chanter. Là, j'ai toujours pensé que je serais amie avec une chanteuse professionnelle, une chanteuse de jazz. Une meilleure amie qui serait à la fois une chanteuse de jazz et une conductrice désinvolte mais prudente. C'est plutôt ça que je m'imaginais. J'imaginais aussi des amis qui m'adoreraient. Or, ces amis trouvent que je suis casse-pied. J'ai ce fantasme de recommencer à zéro et d'éliminer la pellicule de casse-piétude qui me colle à la peau. Je crois savoir comment m'y prendre. Il y a principalement trois choses qui font que je suis casse-pied. Je ne rappelle jamais les gens. Je suis faussement modeste. J'éprouve une culpabilité disproportionnée à propos de ces deux choses, si bien que je suis d'une compagnie désagréable. Ce ne serait pas si difficile de rappeler les gens et d'être plus authentiquement modeste, mais c'est trop tard pour ces amis-là. Ils ne seraient plus capables de remarquer que je ne suis plus casse-pied. J'ai besoin de gens vierges, tout neufs, pour qui je serais synonyme de rigolade. C'est mon problème numéro 2. Je ne suis jamais satisfaite de ce que j'ai. Ce qui marche main dans la main avec mon problème numéro 1, la précipitation. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas tant main dans la main que les deux mains de la même bête. Ce sont peut-être mes mains après tout, et la bête c'est peut-être moi. J'ai eu le béguin pour Kevin pendant 13 ans avant qu'il commence à bien m'aimer en retour. Au début je ne l'intéressais pas parce que j'étais une enfant. J'avais 12 ans et il en avait 25. À partir du moment où j'ai eu 18 ans, il a fallu encore 7 années pour qu'il me considère véritablement comme une adulte, et non plus comme une de ses élèves. Pour notre premier rendez-vous, je portais une robe que j'avais achetée à 17 ans, spécialement pour cette occasion. Elle n'était plus à la mode. En allant au restaurant, nous nous sommes arrêtés à une station-service, je suis resté assise dans la voiture et j'ai regardé l'adolescent qui nettoyait le pare-brise, pendant que Kevin allait payer à la caisse. Le gars utilisait l'éponge avec le genre de dextérité qui indiquait que ce n'était pas seulement un domaine qui l'intéressait, mais que c'était exactement son truc, que c'était tout ce qu'il avait toujours voulu. Là, comme nous quittions la station-service, j'ai regardé l'adolescent à travers la vitre absolument impeccable et je me suis dit, c'est avec lui que je devrais être.
Times that seem
L'homme dans l'escalier s'arrête pendant des laps de temps si incroyablement longs que j'en suis presque à me demander s'il n'aurait pas un problème. Il est peut-être handicapé, ou bien très âgé, ou peut-être juste très fatigué. Il a peut-être déjà tué tous les gens du pâté de maison, et maintenant il est fourbu. Il y a des instants où je le vois presque s'appuyer contre la rampe. Ses yeux balayent l'obscurité. Mes yeux sont ouverts aussi. Kevin dort, il est si loin, et le sera toujours. Le silence devient de plus en plus long, au point que je me demande si l'homme est vraiment là. Le seul bruit, c'est la respiration de Kevin. Et si je passais le restant de ma vie dans ce lit à écouter Kevin respirer? Mais regardez, un craquement net et fort en provenance de la cage d'escalier retentit. Et ce que je ressens, c'est un soulagement saisissant. Il est vraiment là, il est dans l'escalier, et il s'approche à sa manière formidablement lente. Si je vis jusqu'au petit jour, je n'oublierai jamais cette magistrale leçon en matière d'attention. J'ai repoussé les couvertures et je suis sorti du lit. J'avais juste un t-shirt et je n'ai pas enfilé de pantalon, parce que à quoi bon? Peut-être serait-il minu, lui aussi? Peut-être serait-il décapité et couvert de sang? Je me suis tenu dans l'encadrement de la cage d'escalier sur la plus haute marche. Il faisait plus sombre là que dans la chambre, et je me suis senti aveuglé. Je suis resté debout et j'ai attendu de mourir, ou que mes yeux s'habituent à l'obscurité. Je verrai bien ce qui arriverait en premier. Avant d'apercevoir quoi que ce soit, je l'ai entendu respirer. Il était juste devant moi. Je me suis penché en avant, j'ai senti son haleine, j'ai senti son aigreur. Ce n'était pas bon, ce n'était pas quelqu'un de bien. Ses intentions n'étaient pas bonnes. Je suis resté là, lui aussi. Il a soufflé son haleine fétide, qui fait que les femmes doutent de tout, et je l'ai inspiré, comme toujours. J'ai soufflé ma poussière, la poudre de tout ce que j'avais détruit par le doute, et il l'a inspiré dans ses poumons. Mes yeux s'acclimataient et j'ai vu un homme ordinaire, un inconnu. Nous nous regardions dans les yeux et soudain je me suis sentie furieuse. « Va-t'en !» et chuchoté. « Sors ! Sors de ma maison !» Après être reparti de la station-service, nous sommes allés dans un restaurant qui, selon Kevin, me plairait certainement. Mais moi, je pensais encore au gars qui avait nettoyé le pare-brise et j'ai systématiquement fait le contraire de ce que Kevin voulait. Je n'ai pas commandé de dessert ni de vin, juste un peu de salade, dont je me suis plainte. Mais il n'a pas renoncé, il a fait des plaisanteries ridicules, dans la voiture en me raccompagnant chez moi. Je me suis cuirassé contre le rire. J'aurais préféré mourir plutôt que rire. J'ai pas ri, je n'ai pas ri, mais je suis morte. Oui, je suis morte.
Une écriture vraiment pétillante.
Oui. Ben écoute, c'est exactement ça. C'est ça qui me plaît aussi chez elle, l'écriture pétillante et le ton... Le ton de ces récits, et puis le côté complètement, comment dire, elle part dans tous les sens, elle n'hésite pas à suivre une idée, même si ça la détourne de son récit, et c'est comme ça dans toutes les nouvelles, ce qui en fait le charme.
Lena?
Yes, sir, I'm afraid I have.
Patrick?
Yes, sir, I'm afraid I have.
And Martin?
Yes, sir.
Miranda July filme et écrit la vie intérieure. C'est toujours poétique, fantasque, cru, violent et drôle. Dans son premier roman, Cheryl a une boule dans la gorge, un globus qu'elle tente de faire disparaître par tous les moyens, et c'est l'arrivée de Clee dans sa vie qui va tout bousculer. Miranda July dit que la vérité ne fait pas partie de ses super-pouvoirs, elle a besoin de fiction. Mais dans la sienne, il y a un rôle pour nous tous. Il suffit d'accepter d'allonger un peu la liste de ceux qui vont faire partie de notre vie, de nous tourner vers notre voisin, et d'imaginer, par exemple, l'embrasser. Celle qui distribue les rôles, c'est Miranda July. On est en 1998, elle a 24 ans. Elle décide de quitter la fac pour partir à Portland, chanter dans des groupes punk et imaginer des performances sonores. Elle chante au numéro 924 Gilman Street. Plus tard, elle écrira un film qu'elle réalise, Moi, toi et tous les autres, primé au Festival de Cannes en 2005. Le second s'appelle The Future, le futur. Et comme elle aime faire les choses pour la première fois, elle est à Paris pour parler de son premier roman, Le premier méchant, paru chez Flammarion. Cheryl a la quarantaine, elle travaille dans une association d'autodéfense féminine et elle accueille la jeune Clee chez elle. Un combat de femmes va commencer, violent et parfois sexuel. Un vrai jeu de rôle. Miranda July aime provoquer le réel avec la fiction. Dans sa dernière performance sur scène, New Society, elle demande au public de créer avec elle, en temps réel, une nouvelle société. Elle nous propose de faire quelques efforts pour réinventer nos communautés.
Yes, sir, I'm afraid I have.
Patrick?
Yes, sir, I'm afraid I have.
And Martin?
Yes, sir, I'm afraid.
Celle-ci s'appelle l'équipe de natation. Voici l'histoire que je ne voulais pas te raconter à l'époque où j'étais ta petite amie. Tu n'arrêtais pas de demander, tu insistais, tu t'imaginais des choses tellement crues, tellement précises. Ai-je été une femme entretenue? Est-ce que Belvédère était comme le Nevada, où la prostitution est autorisée? Ai-je été toute nue pendant une année entière? La réalité a commencé à paraître dépourvue d'intérêt. Avec le temps, je me suis rendu compte que si la vérité semblait vide, alors je n'allais sans doute pas rester ta petite amie très longtemps. Je n'avais pas voulu habiter à Belvédère, mais je ne supportais pas l'idée de demander de l'argent à mes parents pour déménager. Chaque matin, j'éprouvais un choc en me rappelant que j'habitais toute seule dans cette ville, tellement petite, que ce n'en était même pas une. Juste des maisons, près d'une station-service et 1,5 km plus loin sur la route, un magasin, et voilà tout. Je n'avais pas de voiture, pas de téléphone, j'avais 22 ans, et j'écrivais toutes les semaines à mes parents pour leur raconter que je travaillais dans le cadre d'un programme qui s'appelait LIRE, L-I-R-E. Nous faisions la lecture à des jeunes en difficulté, c'était un programme pilote financé par l'État. Je n'ai jamais décidé à quoi correspondaient les 4 lettres de LIRE, mais à chaque fois que j'écrivais « programme pilote », je m'émerveillais presque de ma propre capacité à inventer des expressions pareilles. « Intervention préventive » n'était pas mal non plus. Cette histoire ne sera pas très longue, parce que le plus étonnant à propos de cette année-là, c'est qu'il ne s'est quasiment rien passé. Les citoyens de Belvédère pensaient que je m'appelais Maria. Je n'ai jamais dit que je m'appelais Maria, je ne sais plus comment ça a démarré. Toujours est-il qu'à un moment donné, je n'ai pas eu la force de révéler aux 3 personnes mon vrai nom. Ces 3 personnes s'appelaient Elisabeth, Kelda et Jack-Jack. Je ne sais pas pourquoi Jack 2 fois, je ne suis pas tout à fait sûr de Kelda, mais ça sonnait à peu près comme ça. Et en tout cas, le son que j'émettais quand je l'appelais par son nom. Je connaissais ces gens car je leur donnais des leçons de natation. C'est l'authentique substance de mon histoire, parce que bien sûr, il n'y a pas un seul plan d'eau à Belvédère, et pas de piscine. Il parlait de ça au magasin un jour et Jack-Jack, qui doit être mort aujourd'hui parce qu'il était déjà très vieux à l'époque, a dit que de toute façon ce n'était pas grave parce que Kelda et lui ne savaient pas nager. Donc ils auraient pu se noyer. Elisabeth était la cousine de Kelda, je crois. Et Kelda était la femme de Jack-Jack. Ils avaient tous 80 ans passés au bas mot. Elisabeth a dit qu'elle avait souvent nagé étant petite l'été où elle avait rendu visite à une cousine. Manifestement, ce n'était pas sa cousine Kelda. La seule raison pour laquelle je me suis mêlé à la conversation, c'est qu'Elisabeth affirmait que pour pouvoir nager, il fallait respirer sous l'eau. « Ce n'est pas vrai !» me suis-je écrié. C'étaient les premiers mots que je prononçais à voix haute depuis des semaines. Mon cœur battait la chamade, comme si j'invitais quelqu'un à un rendez-vous amoureux. « Il faut juste retenir sa respiration. » Elisabeth a eu l'air fâchée, puis a dit qu'elle plaisantait. Kelda a dit qu'elle aurait trop peur de retenir sa respiration parce qu'elle avait un oncle qui était mort d'avoir retenu sa respiration trop longtemps à un concours de celui qui retenait sa respiration le plus longtemps. Jack-Jack a demandé si elle y croyait vraiment, et Kelda a dit « Oui, oui, j'y crois ». Et Jack-Jack a dit « Ton oncle est mort d'une crise cardiaque. Je me demande bien d'où tu tiens ces histoires, Kelda ». Puis nous sommes restés, tous les trois, un moment silencieux. Leur compagnie m'était vraiment agréable, et j'espérais que nous n'en resterions pas là. Et effectivement, nous ne sommes pas restés là, parce que Jack-Jack a dit « Alors comme ça, vous avez déjà nagé ?» Je leur ai raconté que j'avais fait partie d'une équipe de natation au lycée, que nous avions même participé à des compétitions au niveau de l'État, mais que nous avions été éliminés assez tôt par Bishop O'Dowd, une école catholique. Ils ont eu l'air vraiment très intéressés par mon histoire. Jusqu'alors, je n'avais même pas considéré cela comme une histoire, mais à présent, je me rendais compte que c'était en fait une histoire très excitante, remplie de drames et de chlore, et de plein d'autres choses dont Elisabeth, Kelda et Jack-Jack n'avaient jamais personnellement fait l'expérience. C'est Kelda qui a dit qu'elle regrettait qu'il n'y ait pas une piscine à Belvédère, parce qu'à l'évidence, ils avaient beaucoup de chance qu'un professeur de natation habite dans cette ville. Je n'avais pas dit que j'étais professeur de natation, mais je voyais ce qu'elle voulait dire. Oui, c'était dommage. Et là, il s'est passé une chose bizarre. J'avais baissé la tête, je regardais mes chaussures sur le lino marron, en me disant que ce sol n'avait pas été lavé depuis 1 million d'années. J'étais prête à parier, et j'ai soudain eu l'impression que j'allais mourir. Mais au lieu de mourir, j'ai dit « Je peux vous apprendre à nager. » Nous n'avons pas besoin de piscine pour ça. Nous nous sommes retrouvés deux fois par semaine dans mon appartement. Quand ils arrivaient, j'avais trois cuvettes remplies d'eau chaude du robinet, alignées par terre, et une quatrième cuvette devant, celle du prof. Je mettais du sel dans l'eau parce que c'est censé être bon pour la santé d'aspirer de l'eau chaude salée par le nez, et je me disais que cela risquait de leur arriver. Je leur ai montré comment mettre le nez et la bouche dans l'eau et comment respirer sur le côté. Ensuite, nous avons ajouté les jambes, puis les bras. Je reconnaissais que les conditions n'étaient pas optimales pour apprendre à nager, mais, ai-je fait remarquer, c'est comme ça que les nageurs olympiques s'entraînaient, quand ils n'avaient pas de piscine à leur disposition. Oui, c'était un mensonge, mais nous en avions besoin, car nous étions tous les quatre allongés par terre à donner des grands coups de pied, comme si nous étions en colère, furieux, déçus et frustrés, et n'avions pas peur de le montrer. Ce rapport à la natation devait être renforcé par des paroles fortes. Il a fallu plusieurs semaines pour que Kelda apprenne à mettre le visage dans l'eau. « Ce n'est pas grave, je disais. Nous allons vous faire commencer avec une planche. » Je lui ai tendu un livre. « C'est tout à fait normal d'être réticent à la cuvette, Kelda. C'est le corps qui signifie qu'il n'a pas envie de mourir. Ça, c'est sûr, il n'a pas envie, m'a-t-elle dit. »
Je suis de l'eau, je suis de l'eau, je suis de l'eau.
Je leur ai appris tous les mouvements que je connaissais, le papillon était tout simplement incroyable, du jamais vu. J'ai cru que le sol de la cuisine allait céder, se liquéfier, qu'il serait emporté, Jack-Jack en tête. Il était doué incontestablement, il se déplaçait réellement sur le sol avec sa cuvette d'eau salée et tout. Il faisait une longueur jusque dans la chambre et revenait dans la cuisine en martelant le sol, couvert de sueur et de poussière. Kelda relevait la tête pour l'admirer, son livre toujours à la main, elle était ravie. « Nage jusqu'à moi », lui disait-il. Mais elle avait trop peur et il faut une formidable force dans la partie supérieure du corps pour nager sur du dur. J'étais le genre de prof qui reste sur le bord de la piscine au lieu d'aller dans l'eau. Mais je n'arrêtais pas une minute. Si je peux dire ceci sans immodestie, je remplaçais l'eau. Je faisais en sorte que tout se passe bien. Je parlais sans interruption comme un prof d'aérobic. Et je soufflais avec mon sifflet à intervalles réguliers pour délimiter les bords de la piscine. Il faisait alors demi-tour, comme un seul homme, et repartait dans l'autre sens. Quand Elisabeth oubliait de se servir de ses bras, je lançais « Hey Elisabeth, vous avez les pieds en l'air, mais vous piquez du nez !» Alors elle s'activait follement et s'empressait de faire des gestes, des mains, pour vite se stabiliser. Avec ma scrupuleuse méthode pratique d'entraînement, tous les plongeons commençaient dans un style impeccable, en équilibre sur mon bureau et se terminaient en plat sur mon lit. Mais uniquement pour des raisons de sécurité. C'était quand même du plongeon, il s'agissait toujours de ravaler sa fierté mammalienne pour se plier aux lois de la gravité. Elisabeth a ajouté une règle qui s'appliquait à nous tous, il fallait faire un bruit en tombant. C'était un peu extravagant à mon goût, mais j'étais ouverte à l'innovation. Je voulais être le genre de prof qui apprenait à ses élèves. Kelda faisait un bruit d'arbre qui tombe, un arbre qui aurait été femelle. Elisabeth émettait des bruits spontanés, toujours exactement les mêmes, et Jack-Jack disait « Attention aux bombes !» À la fin de la leçon, nous nous essuyions tous avec des serviettes. Jack-Jack me serrait la main et Kelda ou Elisabeth me laissaient un plat chaud, un ragoût ou des spaghettis par exemple. C'était l'échange, et il fonctionnait tellement bien que je n'avais pas vraiment besoin de me trouver un autre travail. C'était juste 2 heures par semaine, mais toutes les autres heures faisaient office de préparation en attendant ces 2 heures. Le mardi et le jeudi matin, je me réveillais en me disant « entraînement de natation ». Les autres matins, je me réveillais en me disant « pas entraînement de natation ». Quand je croisais un de mes élèves dans le bourg, disons à la station service ou au magasin, je disais des choses comme « vous vous êtes entraîné au plongeon à pic ?» Et il répondait « j'y travaille, prof ». Je sais que c'est difficile pour toi d'imaginer qu'on puisse m'appeler prof. J'étais quelqu'un de complètement différent à Belvedere, c'est pour ça qu'il m'a été si difficile de t'en parler. Je n'ai jamais eu un seul petit copain là-bas. Je ne faisais pas d'œuvre d'art, je n'étais pas du tout artiste. J'étais une sportive, en un sens. J'étais vraiment une sportive, j'entraînais l'équipe de natation. Si j'avais pensé que ça pouvait, d'une manière ou d'une autre, t'intéresser, je t'en aurais parlé plus tôt. Ou peut-être que nous sortirions encore ensemble. Je t'ai recroisé il y a 3 heures à la librairie. Tu étais avec la femme au manteau bleu. Quel fabuleux manteau bleu. Tu es à l'évidence très heureux et déjà épanoui, alors que nous nous sommes séparés il y a seulement 2 semaines. Jusqu'à te voir avec elle, je n'étais d'ailleurs même pas tout à fait sûr que nous ne soyons séparés. Tu as l'air incroyablement loin de moi, comme quelqu'un sur l'autre rive d'un grand lac. Un point si petit qu'il n'est ni masculin ni féminin, ni jeune ni vieux. Il sourit, c'est tout. Ce qui me manque ce soir, ce sont Elisabeth, Kelda et Jack-Jack. Ils sont morts, ça je peux en être sûr. Quelle terrible tristesse, je suis certainement le prof de natation le plus triste de toute l'histoire. Voilà, on flirte avec l'absurde et en même temps, voilà, plein de petits détails de vie, des petits moments de vie et des sentiments épars.
Je trouve ça très touchant.
Mmh. Bah, c'est un peu l'impression que j'ai aussi quand je regarde ses films, quand je vois ce qu'elle fait, elle est dans l'émotion, dans le... Voilà.
On pourrait dire quasiment une écriture d'enfant.
Ouais. Ouais.
Ah, dans les sentiments, je veux dire.
Ce que j'aime bien, c'est qu'elle... oui, c'est ça, elle ne se refuse pas comme un enfant de partir dans toutes les directions à tout instant, à tout moment, dès que quelqu'un lui vient, dès que quelque chose lui vient en tête. Voilà, donc il y a une trentaine de nouvelles et je recommande ce livre.
Merci.
De rien.
À très bientôt.
Moustaki, c'est mon frère. Oui.